France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
3 ans après le périmètre de Denver, Vima La Ponce est de retour sur scène avec Onda Romance, son 3e spectacle. Performeuse, circassienne, elle y est toujours, cette femme qui porte des objets très lourds, mais elle dévoile une autre facette de son talent. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, musique. Au menu de la critique, 2 albums, Una Lunghissima Ombra d'Andrea Laszlo De Simone, qui sortira demain chez Eclair, et puis Industry Plant, le premier album de Mickey, disponible sur le label Structure. Vous écoutez les midis de culture, hein, c'est bien ce que je me disais. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, j'appelle Zoé Sfez, productrice de la série musicale Le Samedi à 17h sur France Culture.
Je réponds présente, bonjour.
Bonjour, Olivier Lam, journaliste et critique à Libération, bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour à tous les deux et bienvenue. Et on commence avec un 3e album très attendu, celui de l'Italien Andrea Laszlo De Simone, déjà reconnu largement chez lui. C'est en 2020 qu'il perce en France avec son EP Immensità. Et puis le grand public le découvre surtout en 2023 avec la bande originale du Règne Animal, le film de Thomas Caillet, BO, qui lui vaudra d'ailleurs un César. L'artiste discret vit près de Turin et cultive la simplicité, mais sa musique, elle, est un délicat mélange d'électro, de référence à la pop italienne. Son album Una Lunghissima Ombra sortira demain chez Eclair et Hamburger Records. Et on commence par un avis rapide de Zoé Sfez.
Bah écoutez, moi j'avais peur parce que je fais partie des gens qui ont aimé très 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 profondément cet homme quand je l'ai découvert, pour plein de raisons. J'avais assez peur parce que j'avais peur qu'il se répète, parce que c'est un garçon qui produit un son très particulier, qui a un endroit très particulier. J'avais peur d'être déçu, de l'aimer un peu moins parce que il avait fait ses musiques de film entre temps, il a eu un peu du mal à accepter le succès, les concerts qui sont des moments très particuliers. Et en fait, savoir que cet homme est en vie et continue à faire de la musique fait partie des petites joies que j'ai dans la vie, parce que cet album me remet dans un endroit qui est le sien, voilà, et qui est un endroit si précieux que voilà, c'est une merveille. C'est un album où tout m'intéresse pas autant, mais voilà, j'ai pleuré quasiment dès le début.
C'est un signe quand même, Olivier Lam.
Oui, je pense que personne dans le monde ne prend l'art de la chanson plus au sérieux qu'Andrea Laszlo De Simone. Et je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir à notre époque, une époque où on prend pas beaucoup l'art de la chanson au sérieux. En tout cas, à mon sens, quand je dis l'art de la chanson, c'est pas forcément sa confection. C'est presque un rapport entre l'intimité, le cosmos, quoi, de la chanson, et surtout le fait d'y consacrer sa vie.
On écoute un extrait que vous avez choisi, Zoé, le titre « Ricordo tactile ». Andrea Laszlo De Simone et Zoé Sfez, je vous vois chanter. C'est la joie dans la mélancolie, ces titres-là.
Alors, bonne question sur la mélancolie. Je suis pas sûre. Là, il vient d'ouvrir en disant « Che dono che sia così lungo il giorno per ricordarti ». Qu'est-ce que c'est beau que le jour soit si long que je puisse me souvenir de toi et je presse ta chair. Donc en fait, Ce qui se passe avec Andrea Laszlo De Simone et qui se passait déjà donc quand il a eu ce deuxième album qui a un peu explosé, qui a fait qu'on l'a découvert et qui a coïncidé avec le Covid, ça a été, je pense, aussi un moment important. C'est un homme qui parle effectivement du cosmos. Il y avait ce titre qui s'appelait L'Immensita, qui était sur un même EP où on avait un titre qui s'appelait Conquille et Coquille. C'est quelqu'un qui va toujours nous remettre à un endroit qui est celui de qu'est-ce que c'est précisément la vie et qui s'attelle à essayer de nous faire comprendre dans des chansons tout ça, c'est-à-dire un temps qui se dilate, qu'est-ce que c'est nous, qu'est-ce que c'est les atomes, qu'est-ce que... Voilà, on est... Et au détour de tout ça, il y a évidemment toujours le monde qui existe par la musique, qui existe par toute une série de contrastes qui va créer... J'ai envie de dire tant de choses, mais cet album est, voilà, particulièrement... continue à tracer cette voie qu'il a ouverte... Il parle, évidemment, dans cet album qui est assez long. Alors là, on ouvre, c'est le premier morceau long, mais l'album s'ouvre avec un titre qui s'appelle « Il bouille », qui est l'obscurité. Donc il passe sa vie à passer comme ça à des grandes échelles, à des toutes petites. Au détour de tout ça, il nous parle quasiment toujours du temps qui passe, quasiment toujours de la nécessité de revenir à l'enfance, et donc au passage de réfuter certaines formes de masculinité, mais c'est jamais dit comme ça, hein. C'est toujours un Italien qui a la capacité de faire ce que fait la grande chanson italienne, là on va y venir, c'est-à-dire avec des morceaux, des paroles extrêmement simples. Il s'inscrit dans une grande tradition de ce que moi je considère comme être une des meilleures traditions de la chanson au monde, c'est-à-dire la variété italienne hyper belle des années 60-70, qui a été écrit par des cantautori, des chanteurs-interprètes qui étaient des absolus génies. Et il est dans cette tradition, puisqu'il a aussi, vous l'entendez, et c'est pour ça que je l'ai choisi, un travail d'orchestration presque symphonisant, mais pas toujours, c'est ça qui est intéressant, qui s'inscrit dans cette tradition de faire des chansons extraordinairement profondes, à la portée de tous. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Il oscille. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, il garde sa matrice. Il va évidemment plus loin, mais là, il colore encore plus. Qu'il a toujours eu ce don de coloriste. Et donc, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être à la fois dans cette grande balade italienne, là, vous l'entendez, qui est, vous vous asseyez dessus quasiment tout de suite, et ça se termine. Una lunghissima ombra, qui est le titre qui clôt cet album, n'est qu'une phrase suivie d'une espèce de mélopée balade qui se répète. Il y a toujours quelque chose de circulaire, d'organique, comme si on était dans un cycle, ce cycle éternel de la vie qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, parce qu'il ne faut pas dans ce monde qu'on perde de vue que nous sommes des humains. Et il va évidemment faire des références qu'il avait fait, hein, entre son précédent album et la musique de film qu'il nous a proposé depuis, des reprises presque littérales de la variété italienne des années 60. Il va aller de ce côté-là, il va aller dans des côtés parfois plus sombres, il a carrément un son qui est presque vraiment plus électro, mais sa grande caractéristique, c'est toujours de mêler ses mélopées avec parfois, voilà, des choses qui imitent des hautbois, des bois, des cors, et sa batterie, des basses qui sont beaucoup plus lancinantes et qui convoquent parfois...
C'est très down-tempo comme ça. Hein.
C'est très down-tempo, mais ça convoque aussi le monde extérieur. Il l'avait déjà fait dans son précédent EP, il y avait une éruption comme ça de Ravel, et d'un Ravel presque guerrier qui surgissait à la fin. Donc, il parle du monde avec ses paroles qui ont l'air si simples. Il parle du monde, de la présence du monde et de comment l'habiter. C'est salutaire, quoi. Il y a encore mille choses à dire, mais c'est salutaire.
On va y revenir, ouais. Olivier Lam.
Ouais, moi, je me pose beaucoup la question de savoir pourquoi ce musicien nous touche autant, nous touche intimement, et touche aussi, on va dire, un public large, et donc fait un effet, on va dire, crée une espèce d'engouement comme ça, critique. Bon, on n'en est pas encore, on n'est pas sur des chiffres de streaming équivalents à ceux d'Aya Nakamura, mais enfin, c'est quelqu'un qui importe notamment en France, et ça, on pourrait éventuellement, je sais pas si on aura le temps de parler du lien entre la variété française et la variété italienne, mais je pense qu'il nous touche parce que c'est un musicien qui prend son temps, et là, on l'entend. On a écouté un extrait, on a eu, je sais pas, 10 secondes de chant, et avant ça, on a eu 1 minute 30 d'instrumental. À une époque où on l'a plus, le temps. Ou alors, en tout cas, à un moment où le capitalisme, on va dire, ou en tout cas les gens de l'industrie musicale au sens le plus large, j'inclus les plateformes là-dedans, nous ont poussé à croire, tous autant que nous sommes, les critiques et les autres, qu'on n'en avait plus du temps, en fait. Et lui, en fait, il impose quelque chose directement, c'est-à-dire que quand on met un disque d'André Laszlo De Simone, que ce soit, voilà, Immensita, qui était le plus court, de durer 35 minutes, ces deux albums, Uomo et Donna, et celui-là, font 1h15 chacun, avec beaucoup d'interludes et des morceaux entre 5, 7, 10 minutes. Et quand vous mettez un disque d'Andrea, vous pouvez pas l'arrêter, en fait. C'est des disques mondes, des disques avec lesquels on vit, avec lesquels c'est des disques... avec ce, c'est effectivement ce tempo lancinant, répétitif. Il n'y a pas de rupture rythmique jamais dans, dans la musique de André Lasso de Simonet, et crée en fait une espèce de comment dire de parenthèse en fait dans, dans notre journée, dans notre régime d'écoute de musique, dans, dans ce qu'on fait et des récits. Des vraies respirations. Et pendant ces moments de respiration, il nous dit des choses très profondes. Donc je pense que, et ça, alors en interview, c'est quelque chose quoi, je trouve qu'il a pas mal répété. Moi, il me l'a répété plusieurs fois à 5-6 ans d'intervalle. Il s'adresse pas au public, il s'adresse à vous, à moi, il s'adresse aux gens en tête à tête, en fait, les yeux dans les yeux, en tant que, et ça, pareil, je vais poser la question, qui est le jeu des chansons? C'est lui. Il n'y a pas de fiction dans la, dans, dans la musique d'André Lasso de Simonet. Donc, c'est son expérience du monde, et il rapporte tout, effectivement, il situe tout par rapport à lui, par rapport à son expérience d'italien, son expérience de, d'homme de 39 ans, son expérience de père, ça revient énormément. C'est quand même quelqu'un qui a mis de côté sa passion. Il écrit des chansons depuis qu'il a 15 ans. Il en a écrit presque 800, c'est ce qu'il dit, pour être un père à temps plein. Et en même temps, on voit comment tout ça, en fait, finit par nourrir, en fait, son art. Donc, tout fait cosmos chez, dans son œuvre, dans sa personne. Et c'est... franchement, il n'y a pas de bullshit. Hein. Enfin, on pourrait... Tout ça, ça fait des très jolies histoires hein, dans les articles de journaux. Ça fait un très beau storytelling. Non, il est vraiment comme ça, quoi.
Mmh. Zoé Sfez, la voix, j'aimerais bien qu'on parle un peu de son travail sur la voix.
Alors, ça, c'est intéressant parce que il a quasiment un peu toujours le même traitement de sa voix, mais ça change, en fait. Dans cet album, il y a quelques moments où il va timbrer différemment. Donc, il y a ce travail qui, alors, on peut le dire, peut faire penser à quelqu'un qui vous parle de l'autre côté du monde ou d'un endroit qui serait protégé du monde, qui, évidemment, crée un son presque vintage. Donc, il y a ce fameux, on se dit que ça pourrait venir des années 70. Mais en réalité, quand on n'y parle pas tant que ça, il y a deux ou trois morceaux où il va, il a déjà souvent cette voix qui est quand même placée plutôt haut. Et il y a deux ou trois moments où il va vraiment descendre dans cet album et où il me fait penser à un mec qui s'appelle Piero Ciampi, qui est un grand chanteur italien qui est très célèbre pour des chansons qui étaient aussi des chansons comme ça, presque monde, et aussi des chansons sur l'amour et sur la difficulté d'aimer quand on est un Italien des années 70, alors ce qui n'est pas du tout le cas de Lasso de Simone. Mais cette voix, elle surgit elle aussi, enfin, elle est dans la... Je sais pas comment le dire. Elle surgit comme une espèce de... Olivier a totalement raison, c'est-à-dire que quand vous écoutez ces musiques, et là je le faisais dans le métro avant de vous rejoindre, on marche plus lentement et arrive avec cette voix qui semble arriver presque passer au filtre de quelqu'un qui viendrait de l'espace aussi. Il y a toute cette espèce de... qui en même temps va vous parler très très près, comme si elle était à la fois totalement venue de la musique, de ces strates, parce que c'est quand même un garçon qui a beaucoup... enfin, qui est vraiment un vrai musicien, pour le coup, et qui travaille, et puis il y a ce travail sur la batterie, il y a ce travail sur les couleurs, et elle est à la fois totalement immergée dans la strate sonore, ces strates sonores qui arrivent, et en même temps, c'est comme si elle perçait et qu'elle vous parlait juste à vous, tout à l'oreille. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'assez bouleversant, dont moi j'avais peur de me lasser en réalité à un certain moment, parce que c'est vraiment sa caractéristique, et que peut-être dans 2-3 EP qu'il a sortis entre les deux, ça commençait à m'hérisser, parce que je ne savais pas s'il me parlerait toujours du même endroit, et en fait c'est un endroit aussi qui bouge en même temps que lui bouge, et ça me va totalement. Et en réalité, là je commence à avoir, moi ça fait quasiment 8 ans que j'écoute cet homme, vraiment un endroit de refuge, mais au sens le plus noble du terme.
Mmh. Olivier Lame, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous disiez, le fait qu'il prend la chanson très au sérieux.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on voit bien, il y a quelque chose en presse de, quasiment d'opératique, mais c'est jamais grandiloquent. Alors ça, c'est vraiment un truc, c'est compliqué à justifier. Genre, à moins de vraiment de se poser et d'écouter, on peut pas vraiment décider de savoir si on pense que ça penche plutôt du bon côté ou du mauvais. Voilà, moi, tout le monde adore Radiohead ou Pink Floyd. Moi, j'ai toujours trouvé que Radiohead ou Pink Floyd allait du mauvais côté, allait du côté du grandiloquent. Alors que moi, j'aime que la musique soit majestueuse, si vous voulez. Ouais. Et lui, il a trouvé quelque chose, effectivement, entre l'intime et le grandiose, qui est assez idéal, cette voix comme ça qui se place systématiquement avec cet effet qu'on pourrait dire, il y a des effets d'équalisation un peu radio. Enfin, en gros, il y a très peu de grave. C'est assez différent de la manière dont on enregistre, en tout cas dont on mixe les voix dans la musique, dans la pop aujourd'hui, qui a un effet un peu vintage, mais qui fait qu'en fait effectivement elle a son propre endroit, on va dire dans le spectre des fréquences. C'est une parenthèse. Mais oui, il prend la chanson très au sérieux dans le sens où pour lui, elle doit exactement accueillir sa sa vérité au moment où il l'écrit, et aussi parce que c'est son quotidien. Quand je disais qu'il la prend au sérieux, c'est-à-dire que quand vous mettez une chanson de d'Andrea Lazzo de Simone, il y a pas moyen de faire autre chose. Moi, à chaque fois, je dis aux gens, effectivement, on peut avoir l'impression comme ça qu'ils se répètent, que c'est un peu toujours sur le même motif, etc. Et paf, il y a le refrain qui arrive. Yeah. Et alors là, moi, j'ai mis ce matin chez moi, à un moment du refrain de Kwando, ma femme m'a regardé, genre, mais tu veux qu'on chiale, là? Il y a vraiment un truc. Bon, il est très fort. Bon, après, c'est un talent, c'est un talent qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est un talent qu'on. Et surtout, c'est un type de mélodie auquel on est sensible, auquel on n'est pas. Donc, moi, je veux pas dire que ces chansons sont supérieures aux autres. En tout cas, il les prend très au sérieux. Du coup, ce sont des objets que à prendre ou à laisser. En tout cas, on peut pas les rejeter dans le verre de la main comme quelque chose de jetable. Elles sont pas, c'est pas des chansons jetables.
Mmh. Un tout petit dernier
mot, mais juste pour parler quand même de cette variété italienne, duquel moi j'ai lu peu d'interviews finalement de lui, les vôtres essentiellement, Olivier. Mais le rapport à la chanson italienne, il l'a pas. Il est aussi quand même dans cette tradition, qu'il le veuille ou non, qu'il le recherche ou non, d'une variété italienne qui est une variété qui venait quand même effectivement, qui avait tous ses apports symphoniques, avec à l'époque quand même, faut rappeler la grande époque de la RAI, c'est des Bruno Paoli, et c'est les orchestrateurs s'appellent quand même Ennio Morricone à la RAI, et lui il s'insère quand même là-dedans. Et quel effectivement, sur ces ritournelles et sur ces mélodies, qui plaisent ou qui plaisent pas, ça vient quand même emprunter chez nous à des choses, bon, plus encore pour moi qui suis à moitié italienne, mais à des choses qui relèvent quand même de quelque chose de très profond en nous. Et c'est pour ça qu'on pleure tout de suite. Et cette capacité à aller puiser comme ça, sans faire de plagiat, sans faire à la façon de, mais à sa propre façon, c'est un miracle.
Una lunghissima ombra d'Andrea Lazzo de Simone.
Sur les marches de la BNF, j'ai pas su pleurer comme lui à la fin du film. On est qu'en souhait court devant toi et moi, pour la énième fois, on est coincé sur replay.
Après la sortie de son EP Graou en mars dernier, le premier album de Mickey était lui aussi attendu au tournant pour répondre à ceux qui voyaient en elle un pur produit marketing calibré ultra pop. La franco-coréenne de 26 ans sort Industry Plant, un retournement de stigmate, donc comme on dit. D'ailleurs, on peut noter que cette qualification d'Industry Plant vise souvent les femmes comme Billie Eilish ou Lizzo avant elle. D'ailleurs, c'est en femme indépendante qu'elle a écrit et composé cet album, un album, comme elle dit, à la limite du naïf et du malsain. Quelques mots d'abord, Olivier.
Oui, c'est un disque de pop française légère qui cache pas très longtemps, au bout de 10 secondes, une merveille d'autofiction. Vraiment, c'est, pour moi, c'est la découverte d'une grande artiste, ce qu'elle n'était pas forcément sur Graou.
Zoé Sfez.
C'est extrêmement intelligent, c'est vraiment sidérant quand on l'écoute. Moi, on va le dire musicalement, et puis pour plein de raisons, c'est pas nécessairement ma came, sauf que effectivement, vous l'écoutez et vous êtes sidéré. On s'en fiche parce qu'en fait, elle fait, je pense pour moi, le meilleur disque de l'époque qu'on peut faire quand on est une jeune femme. C'est vraiment une espèce de... On pénètre dans le cerveau de cette fille qui est à moitié Charlie Six, française, à moitié qui sort d'un film de Romère, qui est autant l'enfant de France Inter que TikTok, et qui est capable de raconter ça avec vraiment une intelligence qui n'éclate pas, il n'y a pas de revendication. Moi, je suis assez troublée par le génie de cette fille, on peut le dire.
On va écouter un extrait, Affection, le titre que vous avez choisi, Olivier Lam.
Je dis pas de mots magiques, j'ai juste à ouvrir mes yeux. Même si elle pleure dans la rue, demain tout ira mieux. C'est jamais le bon moment, sa voix c'est un monument. Tout s'improvise tout le temps, ferme pas trop les yeux dans le toboggan. À tout à l'heure, rendez-vous de l'autre côté. Dans un autre monde où rien n'est achevé, à part moi, achevez-moi. Et tous les rêveurs, t'es en FaceTime alors qu'on dîne en tête à tête. J'hoche la tête, j'ai toujours pas le rêve. J'dis que j'm'attrai, mais je m'attrai jamais. C'est pas parce qu'on est dysfonctionnel qu'il n'y a pas d'affection.
Affection sur le premier album de Mickey. Olivier Lam, pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
Parce qu'elle y fait référence à Aphex Twin.
Aphex Twin, évidemment.
Et qu'elle est très forte pour la connivence. Elle m'a complètement eu là-dessus. Et sur, elle cite One Trick Point Never. Et ensuite, elle dit, je veux plus jamais te voir Never Again. Sur un type qu'elle a rencontré à un concert. Et moi, évidemment, je me sens, même si je suis un petit peu âgé, hein, faut le dire. Mais je me sens complètement dans la visée de sa petite saloperie adorable. Et surtout parce qu'elle a ce truc génial. Bon, on n'est pas arrivé jusqu'à ce moment-là du refrain, mais elle cite Aphex Twin directement. Non pas comme un artiste, mais comme quasiment comme un sentiment, et elle le dit juste comme ça, comme la chute de refrain, et c'est, je trouve que c'est une précision d'écriture, qu'on soit dans la connivence ou qu'on n'y soit pas, parce que je pense qu'il suffit d'aller regarder sur Wikipédia pour comprendre un peu et éventuellement aller voir un peu ce qui se cache derrière le nom de cet artiste des Cornouailles, qui est si important pour tant de monde. Je pense que ça résume aussi la manière dont elle s'adresse effectivement à l'auditeur, qui est une manière extrêmement futé, extrêmement sophistiqué en fait de se raconter elle, voilà.
Vous parliez de se raconter elle, donc c'est de l'autofiction. Hein,
alors on est pour moi, et c'est assez contre-intuitif au départ, parce qu'effectivement on a l'impression d'être sur un artiste qui se vend très bien, etc. Ce que personne n'avait perçu en fait au moment où il y a cette espèce de bad buzz, peut-être campagne en fait de dénigrement contre elle. Ou alors ce qu'on avait trop perçu, c'est qu'effectivement dans ce clip dans lequel elle chantait devant un buffalo grill en se filmant avec un iPhone, c'est qu'elle était pas maquillée, c'était qu'elle était habillée comme elle s'habille tous les jours, etc. Et tout le monde a dit mais c'est une construction. Et je trouve ça assez fascinant, parce que ça a vraiment... On peut mettre ça de côté en disant c'est de la misogynie, etc. Mais je pense que ça pose quand même deux questions, à savoir pourquoi on estime à ce point-là la valeur de l'authenticité dans la pop, ouais. Alors qu'on sait que la pop est fabriquée, voilà. Et pourquoi c'est elle à qui on a reproché à ce point, on va dire ces deux dernières années, d'être une artiste fabriquée ou plantée par l'industrie, ce qui est effectivement contre-intuitif puisque je pense que c'est exactement le trouble qu'elle crée avec sa musique, à savoir que la feuille de papier à cigarette entre sa vie et ce qu'elle raconte de son art en fait est vraiment infinitésimale, elle est minuscule en fait, et je pense que ça crée un trouble sur le réel. Et d'ailleurs quand on lui parle, elle raconte sa manière d'écrire, elle dit et prends un cahier, écris ce que tu penses, la manière la plus vraie, ne te mens pas à toi-même, on se ment tous à nous-mêmes, hein, sur nos relations professionnelles, sur est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on est malheureux, etc. Elle essaie de dire la vérité. Et ça, c'est ce qu'elle essaie de faire quand elle écrit, et du coup, ça donne des choses, elle raconte des choses dans ses chansons qu'on ne devrait pas, entre guillemets, raconter dans des chansons. Et ça donne du quotidien, ça donne des explosions de violence, ça donne des explosions d'intimité. C'est-à-dire qu'elle elle va extrêmement loin dans ce qu'elle raconte sur ses relations avec ses proches, avec sa mère, sur des choses qu'elle a vécues quand elle était enfant, quand elle était adolescente. Et ça crée un trouble, parce qu'on n'a pas l'habitude. Tout le monde s'en réfère à Angèle, je pense même au départ, on va dire esthétiquement, notamment du fait parce qu'elle travaille avec Christian Salvatti, qui est le metteur en son du premier album d'Angèle. Mais c'est tout le contraire en fait, on est exact, et ça crée un trouble quasiment esthétique très étonnant. Elle n'est pas ce qu'on nous annonçait qu'elle serait, elle est autre chose, elle est beaucoup plus profonde, et du coup cet album est vraiment très étonnant.
Zoé Sfès.
Oui, je vais complètement rentrer là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est la couverture de cet album, c'est elle en short, en pyjama, sur son lit, avec sa couette mal refaite, et effectivement, il y a eu ce soupçon, et c'est ça qui est fou, ce soupçon de cette fille si jolie, franco-coréenne, à une époque où la Corée s'appelait tant, qui a l'air si intelligente, c'est suspect. Or, dans cet album, je pense que ce qui crée la suspicion, c'est que de cette fameuse Gen Z à laquelle elle appartient, on s'attend à tout sauf à faire quelque chose de brut et de frontal. Or, elle arrive, dans tout ce que vient de dire Olivier, il reste peu de temps, je vais pas revenir là-dessus, mais avec cette éruption de la disruption, on va avoir des conversations entières, on va avoir soudain à la fois une mélopée, des images, elle est hyper forte pour enchaîner quelque chose qui serait du flux mental, quelque chose d'extrêmement bas de plafond, la réalité, avec juste derrière une interprétation, avec des images d'une poésie complètement folle. La juxtaposition des deux nous plonge dans cette génération hyper étrange dont elle arrive va faire le portrait en faisant son propre portrait, c'est-à-dire une grande poésie très désenchantée, un mélange qui est hyper désarmant de très grande innocence et en même temps d'immense cynisme. Et cette capacité à mêler les deux était suspecte, alors que là, vraiment, on rentre avec elle dans ses tripes quand elle prend trop de drogue. C'est vraiment assez fou. Et alors, vous venez de parler du nom de référence qu'elle est capable de jeter, donc c'est vraiment aussi très troublant, cette manière qu'elle a de nous dire qu'elle est à la fois complètement l'enfant de cette génération et de cette génération très bâtie par les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on l'a connue, et en même temps de faire à chacune des générations des références en permanence, de nous dire qu'elle se touche sur Vincent McCain, ça c'est ce qui a beaucoup fait rire. Elle est vraiment cet enfant de l'hyperpop, de tout ce discours qui est presque méta sur lui-même, et en même temps l'enfant de France Inter, de la France, et d'une tradition musicale qui est beaucoup plus large que la musique qu'elle pratique. Ça, c'est aussi l'autre piège, c'est qu'elle a cette... Alors là, elle a des vrais musiciens sur cet album, des batteurs, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a un vrai travail. Que ça nous intéresse ou pas, c'est pas la question. En fait, elle choisit de faire un son de l'époque, mais elle sait qu'il y a bien d'autres choses derrière elle. Elle a fait des playlists sur Spotify, vous pouvez aller la voir, elle écoute que de la super bonne musique, qui a assez peu à voir avec ça. Donc, en fait, il y a quelque chose de si bouleversant dans l'intégrité, l'intelligence, que c'est hyper surprenant. Voire, je ne suis même pas sûre qu'on ait encore compris, justement, qu'elle soit sortie de cette fameuse rumeur qu'il y a eu autour d'elle sur le fait qu'elle est fake. J'ai l'impression qu'on a encore du mal à épouser et à embrasser tout ce qu'elle a à nous raconter. C'est vrai que c'est assez troublant. Cette fille qui arrive à nous parler, venue de l'objet qu'elle était censée être, et qui est, très franchement, je pense, une porte d'entrée complètement folle sur une génération qui se méfie d'elle-même et dont tout le monde se méfie.
Olivier Lam ?
Oui, dire aussi, moi j'ai une dynamique que j'adore dans son écriture, c'est cette manière de systématiquement de mettre des surprises partout. On va dire son travail sur les contradictions. Elle passe son temps à se contredire elle-même et à créer des surprises. Alors ça peut être léger, voire humoristique. Par exemple, elle dit t'attends pas un dernier refrain, et une minute plus tard le refrain revient, elle dit refrain surprise. mais ça peut être aussi vraiment poignant sur Je t'aime encore, par exemple. Elle ne cesse en fait de changer d'avis sur le garçon dont elle est amoureuse ou qu'elle jette. Ou ça peut même être grave, en fait. Et on peut écouter, moi j'ai écouté en boucle Yes, la chanson qui ouvre l'album, qui est celle où elle parle le plus de ce qu'elle a vécu,
elle parle des
tempête
sociaux,
de merde, de ce qu'elle s'est prise, etc. Et dit, bien sûr que ça me blesse. Et cette manière d'alterner Yes, bien sûr que ça me blesse, cette espèce de contradiction entre le positif et le négatif, et moi je trouve vraiment vertigineux, effectivement, génération Z ou génération de Quadra ou de Quinca. J'espère vraiment que cet album va marcher et va l'installer comme une artiste importante de la musique française de notre temps, quoi.
Industrie Plainte, premier album de Mickey, qui est en tournée ensuite. Elle sera au Havre, à Saint-Lô, au Mans, à Poitiers, à l'Élysée Montmartre à Paris les 18, 19 et 20 mars prochains. Les dates sont évidemment sur la page des Midi de Culture. Merci à tous les deux.